ce bar des sciences consacré à un sujet qui, je pense, nous préoccupe tous, puisque vous êtes venus pour ce grave problème que l'on doit aujourd'hui gérer, qui est celui du réchauffement de la planète et qui va évidemment avoir des conséquences sur notre vie de demain. C'est un plateau que je trouve très intéressant parce qu'il est très complémentaire. Je voudrais d'abord vous présenter Ami Daan. Vous êtes directeur de recherche dans un laboratoire des hautes études en histoire, sociologie des sciences et des techniques. Donc vous n'êtes pas une scientifique pure et dure qui a analysé la physico-chimie de l'atmosphère. Vous avez monté une équipe de recherche sur les changements climatiques sous toutes ses formes et vous vous occupez aussi de savoir comment fonctionne ce qu'on appelle le GIEP, qui est le groupement... C'est le groupement intergouvernemental d'études sur le climat. Alors, est-ce que vous pouvez présenter vos travaux en 2-3 minutes, comme ça, pour qu'on se rende bien compte quels sont vos objectifs?
Merci. Je suis, alors, originellement une scientifique quand même, puisque j'étais mathématicienne, mais ça fait pas mal d'années que je m'occupe d'histoire et de sociologie des sciences. Eh bien, l'idée est très simple, c'est que les sciences se développent et ont un impact évidemment très important, les questions scientifiques, sur la société, et qu'il est bon que des spécialistes des sciences sociales analysent ces répercussions, ces impacts, le mode de production des savoirs scientifiques, comment le consensus se fait entre les scientifiques, quels sont les liens avec la politique, etc. etc. Donc ce groupe que j'ai réuni a fonctionné pendant plusieurs années avec des climatologues du laboratoire de météorologie dynamique donc de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont on aura l'occasion sans doute de parler, avec des économistes du Centre international de recherche sur l'économie du développement, des gens qui s'occupent de l'économie du changement climatique, et puis avec des historiens et des sociologues des sciences qui étudient à la fois les modèles du climat, comment ils ont été construits, leur histoire et les problèmes, et aussi les problèmes de l'expertise. Comment le consensus se fait, qu'est-ce que c'est que cet organisme international absolument singulier qui a été créé il y a une vingtaine d'années et qui fonctionne et qui est très présent dans la négociation internationale sur le changement climatique, etc. Donc, si vous voulez, l'ensemble de ces questions sont l'objet de travaux pluridisciplinaires et de nombreuses publications. Voilà.
Alors, ce groupement intergouvernemental qui étudie les problématiques du climat réunit à peu près une centaine de chercheurs, vous m'avez dit. C'est quand même...
Plusieurs centaines.
Et ils viennent d'où, tous ces chercheurs?
Eh bien, la spécificité de cette institution, c'est qu'elle a été donc créée après, en 1988, par les Nations Unies finalement, et cet organisme international est aujourd'hui réfère aujourd'hui à 192 gouvernements qui participent à la négociation climatique. Donc l'idée, c'est que les scientifiques doivent autant que possible aussi, bien sûr, venir de tous les coins de la planète, mais ils sont recrutés principalement sur leurs compétences scientifiques, donc puisqu'ils évaluent des recherche scientifique. Mais recherche scientifique, bon, on aura l'occasion d'en parler, c'est oui, tout le problème du domaine climatique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des scientifiques des sciences dures, comme quelqu'un qui est à ma gauche, donc du commissariat à l'énergie atomique, et puis des gens comme ça qui s'occupent des sciences de l'atmosphère, de l'océan, des problèmes qui concernent vraiment le système Terre, et puis aussi des gens qui s'occupent de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes, sur les économies, sur les gens, sur les forêts, etc. Et puis, troisièmement, il y a aussi des gens qui qui essayent et qui sont aussi dans ce GIEC. Donc, la corporation des économistes est aussi représentée, puisqu'elle tente de répondre, d'élaborer, si vous voulez, des mesures pour lutter contre le changement climatique, etc. Des modèles aussi. Bon, et là, je pense que mon ami à ma droite aura aussi l'occasion d'en parler.
C'est ça, parce que vous êtes entouré d'un scientifique et d'un économiste. Voilà. Donc c'est dans ce sens que ce plateau est vraiment très complémentaire. Alors, on commence par le scientifique. Oui, je veux faire de la peine à personne. Hein. Bon, alors, Denis Payard, vous êtes... Didier, pourquoi vous appelez Denis? Tout le monde vous appelle Denis depuis le début, alors excusez-moi. Didier Payard, vous êtes climatologue au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Vous vous intéressez aux mécanismes physico-chimiques qui ont engendré des changements de climat, mais dans les temps lointains, c'est-à-dire dans le passé, quoi. Vous avez deux sujets de privilégiés, la dynamique des cycles glaciaires, interglaciaires, le rôle du CO2 dans toutes ces dynamiques, et la dynamique des changements climatiques rapides observés en période glaciaire. Et donc, vous vous intéressez au futur naturel et anthropique, dites-vous. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus?
Alors, en effet, donc, il y a plusieurs façons d'aborder la question scientifique. Le changement climatique, c'est d'une part en essayant de calculer le mieux possible tout ce que l'on peut savoir de l'atmosphère, puis de l'océan, puis des surfaces continentales, puis du cycle du carbone, etc. On arrive très vite à un ensemble assez complexe. Et une autre façon d'aborder le problème, c'est d'essayer de voir dans le passé qu'est-ce qui s'est déroulé dans l'histoire de la Terre, comment le climat a changé et quelles ont été les conséquences, les causes de ces changements climatiques passés, et en essayant de comprendre un petit peu l'enchaînement des événements dans le passé, ça nous renseigne sur la dynamique de ces changements climatiques.
Alors, tout de suite, vous vous intéressez aux calottes glaciaires?
Alors, effectivement, quand on s'intéresse au climat du dernier million d'années, pour faire simple, on est obligé de s'intéresser aux calottes glaciaires, puisque c'est le plus grand changement climatique qui est observé dans la période. Alors, un million d'années, c'est à la fois très vieux et très récent. C'est à l'échelle des hommes qui vivaient déjà à cette époque-là. Et donc, il y a eu des changements très importants dans la couverture des calottes de glace. Donc, c'est aussi intéressant d'extrapoler cette dynamique-là dans le futur et de se poser la question de savoir si vraiment l'Antarctique va évoluer.
Là, je pense qu'on vous questionnera là-dessus parce qu'on en parle pas mal en ce moment des calottes glaciaires. Et puis, vous avez quelques idées aussi sur ce qui pourrait se passer dans le futur, quand même.
Oui, bien sûr. Bon, enfin, je peux faire le porte-parole de tous mes collègues, voilà. Tous mes collègues qui travaillent sur le 21e siècle. Et aussi, ce que je peux discuter en plus, je dirais, c'est les aspects un peu plus long terme qui concernent le cycle du carbone et la durée, en fait, de ce changement qu'on est en train d'effectuer à la surface de la Terre. Est-ce que c'est une petite perturbation rapide ou est-ce que c'est quelque chose qui a une importance?
Est-ce qu'on l'entend? Parce que je trouve qu'il parle pas très fort. Hein, faut lui dire de parler plus fort à Didier.
Je parle un peu plus fort.
Un petit peu plus fort.
Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si c'est une perturbation relativement court terme, c'est-à-dire à l'échelle du siècle, ou bien si au contraire c'est quelque chose qui va perdurer pendant des milliers, des centaines de milliers d'années.
Bien, alors je pense qu'on aura aussi beaucoup de questions à vous poser. Olivier Godard, vous êtes économiste à Polytechnique, alors vous avez un nombre de casquettes énormes, je pense que je ne vais pas toutes vous les citer, mais enfin, vous êtes quand même directeur de recherche au CNRS. Vous êtes professeur chargé de cours à l'école polytechnique, vous êtes président du comité de pilotage de la chaire développement durable, école polytechnique, EDF. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'en effet, vous vous intéressez particulièrement à ce que l'on appelle l'économie du développement durable, dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvre. On sait que l'Europe s'est engagée dans cette économie. Vous avez fait une conférence que vous m'avez envoyée pour préparer cette soirée que j'ai vue. C'est 24 pages quand même, hein, je les ai lues avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt et surtout, beaucoup d'émotion parce que dans ces 24 pages, vous vous adressez donc au Conseil économique et social. Donc vous avez affaire là quand même à des gens qui ont un pouvoir de décision et vous leur expliquez finalement l'économie, cette fameuse économie du développement durable, eh bien pour y accéder dans nos rêves, il va falloir qu'on s'y mette vraiment avec une volonté de faire, parce que jusqu'ici, c'est mal parti. Hein, c'est ça ?
Oh oui, très mal parti, parce qu'on a perdu 15 ans. On évoquait le GIEC qui a été créé en 1988. Il y a eu la convention de Rio en 1992. On pensait que les choses se mettaient en place. Et puis, on s'est aperçu tout au long de la période depuis 1992 que, malgré la multiplication des expertises, malgré les multiples rencontres, colloques, etc., les choses n'avançaient pas vraiment. Et que, si on prend le grand succès qui a été le protocole de Kyoto, il ne concerne qu'une minorité de pays aujourd'hui. Et on ne sait pas, et il prend fin en 2012, et on ne sait pas s'il y aura une suite et quelle sera la suite. C'est-à-dire que le premier petit pas partiel fait par un sous-ensemble de pays n'est pas vraiment sûr d'être conforté pour la suite. En gros, Kyoto, ça couvre 30% des émissions mondiales, et formellement parlant, et de manière un peu mordante, à peu près 19%. Or, ces 19%, ils vont se réduire progressivement dans le temps, puisque les émissions des pays du Sud, qui ne sont pas liées par des engagements, de la Chine, l'Inde, vont considérablement augmenter, et puis, pour le moment, sans perspective de limite suffisante, en tout cas, par rapport à nos grands objectifs dont on parle, qui est, par exemple, le facteur 4, pour maintenir...
Le facteur 4.
Oui. En gros, en ce moment, vous allez peut-être me corriger si je dis des bêtises, mais enfin, on émet 7 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère par an. Si on laisse faire, sans trop se préoccuper de la question, à l'horizon 2050, on en émettrait 14 millions de tonnes de carbone. Et puis, pour retrouver une trajectoire qui nous permette de limiter l'accumulation de gaz dans l'atmosphère de telle manière que la température moyenne, sans surprise, soit pas plus de 2 degrés d'augmentation, il faudrait qu'on ramène à ça 3-4 milliards de tonnes par an. Alors voilà le facteur 4.
Alors, est-ce que c'est possible?
Mais écoutez, il vient d'être remis en France un rapport, le rapport du groupe facteur 4, précisément, qui dit, un rapport officiel du gouvernement français, qui dit que c'est possible, mais que ça va vraiment pas de soi. C'est-à-dire que c'est techniquement possible. Oui. Il y a d'autres papiers qui disent à l'échelle internationale, il y a 10 ensembles de mesures envisageables qui permettent de faire cela à l'horizon 2050 avec les techniques existantes. Mais ça implique des bouleversements importants de l'économie, des modes de vie, pas le retour à la chandelle, mais des changements importants. Et notamment dans l'économie, c'est-à-dire les prix relatifs qu'on utilise. Le prix du carbone doit apparaître comme étant un prix directeur, ce qui n'est pas encore aujourd'hui.
Vous dites par exemple, au quotidien, si on voulait vraiment agir, il faudrait déjà interdire toutes les voitures dans les villes, quoi.
Ben, ça serait des mesures de genre. Il faudrait, si on disait d'ici 2012, plus aucune voiture au carbone dans les villes, oui. Ça c'est un challenge. Je suis sûr qu'on trouverait des solutions techniques qui le rendraient possible.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on est en face d'un défi, normalement, les solutions techniques, on les trouve. D'ailleurs, on a des spécialistes des avancées technologiques là, qui pourront peut-être nous dire, c'est pas Thierry Godin, tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, voilà. Alors... Comment est-ce qu'on peut, à partir de là... est-ce que vous voulez qu'on fasse déjà un point sur la situation scientifiquement parlant? Ce serait peut-être pas mal, hein. Alors ça, Didier, c'est à vous. La situation aujourd'hui, comment ça se présente?
Alors comment ça se présente? Donc aujourd'hui, depuis environ le 18e siècle, le 19e siècle, on a émis du gaz carbonique dans l'atmosphère en quantité croissante et sans cesse croissante. Et on est arrivé à un niveau de concentration atmosphérique en CO2 dans l'atmosphère qui est 30% supérieur à ce qu'il était avant l'ère industrielle. Et si on fait des projections, 30%, c'est-à-dire le niveau pré-industriel, c'est 280 parties par million. Donc pour un volume d'air, on a 0,028% de gaz carbonique. Et on est maintenant passé à un niveau de 380 parties par million aujourd'hui. Donc c'est un changement quand même assez considérable de la composition atmosphérique en gaz à effet de serre. Et le principal problème lié au gaz carbonique, c'est qu'il a une durée de vie extrêmement longue. Donc il va rester là pendant très longtemps. Et cette concentration s'accumule et continue, les flux continuent d'augmenter. Et donc les projections que l'on peut faire pour le 21e siècle nous amènent à des niveaux qui sont des doublements, ou des triplements, des quadruplements de la concentration naturelle en CO2. Et effectivement, là, ça commence à devenir un facteur climatique majeur, puisque ça va entraîner des augmentations de température, en tout cas à l'échelle globale, qu'on peut estimer de quelques degrés. Par quelques degrés, là, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. De dire quelques degrés en plus, c'est pas très grave. Mais pour donner des ordres de grandeur, quelques degrés en moins, c'était l'ère glaciaire. Donc ça change quand même beaucoup les écosystèmes, ça change beaucoup probablement la météorologie au quotidien et notre environnement.
Donc pour vous, scientifiques, la situation est grave sans vouloir faire de catastrophisme?
Alors grave, je ne sais pas, mais en tout cas, on assiste à un changement de notre environnement qui est un changement majeur, qui n'a jamais été vécu dans l'histoire de l'humanité. Alors est-ce que c'est grave ou pas? Ça peut être moins grave pour les Russes qui veulent faire pousser du blé en Sibérie, mais c'est plus une question de point de vue. Donc si on regarde les impacts directs, je pense...
Il faut s'en préoccuper quand même.
Il faut s'en préoccuper, C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir tout un tas de conséquences, dont certaines ont sans doute pas été encore prévues. Et donc on est face à un changement de tout notre environnement. Il va falloir vivre avec.
Alors vous avez entendu un piano qui soulignait... Le voilà. C'est Xavier Ferrand qui est au piano et qui va nous accompagner... avec ses notes de musique tout au long de cette soirée. Maintenant, je voudrais demander à Ami Dahan, comment vous réagissez, vous qui travaillez avec ce GIEC, en plus, au propos de Didier Taillard.
Écoutez, je crois que depuis un certain temps, notre groupe travaille en interaction étroite avec les climatologues, peut-être davantage de l'Institut Pierre-Simon Laplace, donc du laboratoire de météorologie dynamique. Nous sommes aussi allés à Météo France, etc. Et donc nous avons conscience du fait qu'un consensus vraiment extrêmement large de la communauté des climatologues est en train de s'est réalisé depuis pas mal d'années, et que justement ce que je voudrais souligner, c'est que des épiphénomènes qui apparaissent dans les médias sur le fait que tel ou tel grand scientifique, en général dans une autre discipline, remettent en cause les résultats des climatologues et de ceux qui se préoccupent véritablement de ces questions, climatologues, paléoclimatologues, etc., spécialistes justement des questions de glaciation, de l'histoire des climats. Il faut véritablement, je mets les pieds dans le plat, parce que c'est une question qui peut brouiller le message qu'entend l'opinion publique. C'est-à-dire de se dire, y a des controverses entre scientifiques, donc les choses ne sont pas acquises. Je crois vraiment que 90% ou 95% des climatologues est absolument persuadé qu'aujourd'hui, les faux sont graves, sont importants. Bon, ce que nous avons essayé d'étudier, c'est, j'ai par exemple une jeune collègue qui fait sa thèse sur les modes de construction des modèles climatiques, les modes de validation, etc., du point de vue un peu de l'épistémologie des sciences. Bon, il est évident que les modes, tout cela est réglé et répond à un certain nombre de règles scientifiques, méthodologiques, etc., extrêmement bien normées et très sérieuses. Et donc, quand un spécialiste d'une autre discipline, qui a certes une grande notoriété médiatique et autorité intellectuelle, une certaine arrogance intellectuelle, nous dit, comme c'est le cas de Claude Allègre, qu'il n'y croit pas, eh bien, bon, je crois qu'il faut bien mesurer quelle est la signification provocatrice de cette intervention.
C'est quoi la signification, selon vous ?
Écoutez, je vais rappeler simplement que Claude Allègre a dit que l'amiante n'était pas dangereux, il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en est et comment on est en train, au prix d'investissements énormes, de désamianter Jussieu et tous les bâtiments publics qui sont fortement amiantés. Or, il a refusé il y a 15 ans, quand il était ministre, il disait ben, c'est rien du tout, c'est un bobard monté par le groupe des activistes de Jussieu. Donc, je pense que M. Allègre, sur ce point, en tout cas, n'est pas fiable, comme il n'était pas fiable sur l'amiante.
Vous avez l'impression que dans l'ensemble, il n'y a pas de controverse sur la gravité de la situation chez les scientifiques, aujourd'hui, à part quelques exceptions.
Je pense que ce qui est sûr, c'est que il y a eu des controverses et il y en aura sûrement sur des points importants, enfin sur des points bien circonscrits. J'ai eu l'occasion, par exemple, de suivre ou d'étudier comment, parce que vous savez que dans le fameux GIEC dont on a parlé tout à l'heure, ce GIEC est censé produire tous les 5 ans à peu près, tous les 4-5 ans, un grand rapport qui fait autorité sur l'état des résultats scientifiques, l'évaluation de ces résultats, et il est censé aussi le faire pour aboutir à un consensus entre les scientifiques, y compris sur les désaccords, c'est-à-dire trouver les termes de formulation des désaccords et trouver ces termes en termes consensuels, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de résumer sur le consensus, y compris sur le dissensus. Eh bien, par exemple, il y a quelques années, il y a un climatologue américain du MIT qui était très sceptique sur le changement climatique, qui s'appelle Lindzen, et qui remettait en cause certains résultats, par exemple, relatifs au rôle que les nuages jouent dans le phénomène de l'effet de serre, qui est un phénomène extrêmement compliqué. Les nuages,
c'est l'effet parasol, là.
Disons que...
Il y a l'effet parasol des nuages.
Voilà. Bon, j'ai pu lire et suivre un petit peu les différentes étapes de la résolution de ce problème au sein du groupe des rédacteurs du chapitre qui était en charge de cette question et qui a été d'ailleurs rapporté par une jeune femme qui s'appelle Sandrine Bonny, qui est climatologue française, enfin, qui faisait partie des experts du GIEC. Bon, elle a décrit, elle a rendu compte de la façon dont la discussion interne au GIEC avait abouti à la fois à une certaine réflexivité vis-à-vis des résultats et un consensus sur la fourchette. Donc, il peut y avoir des accords ou des controverses, et c'est tout à fait normal, c'est la vie de la science.
C'est même important,
c'est très important. Sur les fourchettes, sur l'importance de tel ou tel facteur, etc. Mais je crois que globalement, dans l'ensemble, la communauté climatologique, climatique, moi je ne sais pas comment dire, est persuadée, convaincue de le sérieux, de la gravité de la question, et voilà.
Bien. Alors, Olivier Godard, comment vous faites en tant qu'économiste? Vous étudiez les résultats des scientifiques?
On essaye, oui.
Oui.
Autant qu'on puisse les comprendre, et puis évidemment, on a plutôt accès aux synthèses qu'aux détails des travaux. Par exemple, j'ai découvert récemment un article de David Archer expliquant que, contrairement à ce qu'on disait habituellement, le durée de vie du CO2 dans l'atmosphère n'est pas une centaine d'années en gros, mais que la bonne représentation, c'est de se dire qu'il y en a 75% qui sont là pour 300 ans en moyenne et 20% par là pour l'éternité. Ça change beaucoup le problème de la décision. Et alors, peut-être un commentaire sera bien vu tout à l'heure sur ce papier de David Archer. Bon. Je ne suis pas apte à en juger. Quand j'ai des informations comme ça, j'essaie de vérifier ce que c'est publié dans une bonne revue. Je demande à mes amis climatologues si c'est un sérieux ou c'est un rigolo. Et, enfin, c'est des choses comme ça que je sais.
Ce que vous dites dans votre conférence là, que j'ai lue, vous dites que la situation actuelle, en fait, il y a une irréversibilité. Voilà, pardon. Au fond, c'est trop tard, quoi, déjà.
Bah, on risque, c'est ça mon... très inquiet. Beaucoup de gens disent, au fur et à mesure, il y aura des événements climatiques extrêmes, du type canicule 2003, les gens vont commencer à réagir, et on va faire des choses. Et je crois qu'on va faire des choses, mais de plus en plus sur le mode de l'adaptation. Comme on l'a vu, à propos de la canicule, après on s'équipe en climatiseur, bon, et les budgets vont aller là. Et on n'aura pas les moyens de faire à la fois l'adaptation et une prévention. Alors il faudrait les deux. Et donc je crains que plus les gens soient convaincus du caractère inéluctable de ce changement climatique et de la nécessaire prévention à l'adaptation aux événements extrêmes qui vont se produire, bon, on considérera ça un coup parti et on ne s'occupera plus de prévention. Donc contrairement à certains autres qui pensent que c'est là la bonne nouvelle, je pense que c'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. J'avais eu la même réaction par rapport au fameux scénario du Patagone dont on a parlé un moment il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Le scénario qui est extrême, on parle des scénarios, imaginons une catastrophe climatique à horizon de 20 ans. Bon, à horizon de 20 ans, aucune action humaine ne peut changer quoi que ce soit à ce qui va se passer. Il reste la réponse militaire. C'était pourquoi le Pentagone s'en occupait. Mais la réponse militaire, c'est-à-dire pour empêcher les migrants du climat de venir chez nous, enfin, etc. C'est ça la réponse militaire. Alors, ça nous mène dans des voies qui ne paraissent pas être les plus sages dans l'immédiat.
Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir déjà? Thierry Godin, vous rappelez qui vous êtes, Thierry?
Oui, moi je fais de la prospective, je préside une association qui s'appelle Prospective 2100, qui avait rédigé du temps de M. Curien un rapport de prospective planétaire sur le 21e siècle. Et d'ailleurs, ce qui est par rapport à ce que vous dites, ce qui est à noter, c'est que à l'époque, en 1990, l'évaluation du réchauffement planétaire en 2100 était entre 3 et 5,5 degrés. Aujourd'hui, il est entre 4 et 6. Donc on ne peut pas dire que les évaluations aient vraiment changé. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de décisions qui ont été prises. Et à cet égard, depuis quelques mois, nous sommes vraiment de plus en plus inquiets. Et nous avons un certain nombre de groupes de travail, un sur l'utopie qui est présidé par Philippe Bernard, un autre sur Jardin planétaire qui est présidé par Hervé Bichat, le voici. Un troisième qui est animé par Pierre Radan, qui n'est pas là malheureusement ce soir, qui est l'ancien président de l'ADEME. Ils ont décidé de se réunir dans un groupe qui s'appelle Terre 2100 et d'essayer de se réunir à l'école des mines régulièrement. C'était Dominique Dron qui animait ça jusqu'à récemment, de manière à dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je crois qu'il y a une... Et je suis d'accord avec... Olivier Godard, il y a une formidable sous-estimation des changements induits par cette question. Il n'y a pas un seul domaine d'activité. L'agriculture va en être bouleversée, l'urbanisme va en être bouleversé, les habitudes quotidiennes. À l'ADEME, ils avaient fait un calcul tout simple pour savoir quelle était la dépense d'énergie que faisait le citoyen quand il allait faire ses courses à l'hypermarché périphérique ou quand il le faisait à la supérette de son quartier. Et bien, le rapport est, autant que je me souvienne, de 125 à 4. Le rapport de consommation énergétique. Donc on voit bien que c'est vraiment au niveau de la vie de tous les jours et de tout le monde qu'il s'agit d'avoir des transformations. Mais malheureusement, jusqu'à présent, et je crois que c'est intéressant, Amida, on va peut-être pouvoir enchaîner sur cette question, jusqu'à présent, il y a relativement peu de décisions de transformation sociétale qui ont été prises à la suite de travaux scientifiques. Moi, je connais celles sur les CFC, les chlorofluorocarbones, et effectivement, la décision a été prise et elle était positive. Mais il y en avait une autre beaucoup plus ancienne, c'est le système métrique. Ce sont effectivement les scientifiques qui ont structuré le système, et c'était une structuration. Ce n'était pas véritablement une inflexion. En tout cas, je voudrais simplement dire que ceux qui souhaitent travailler cette question en petits groupes, de manière à savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses, nous nous réunissons le 7 novembre, c'est la veille de votre prochain Heure des Sciences, à l'École des Mines à la salle Vendôme, à 19h. Et ceux qui ont envie de participer pour venir travailler sont les bienvenus. Et nous allons d'ailleurs consacrer cette séance à savoir comment est-ce que nous orientons notre travail pour les mois qui viennent.
Alors c'est où? Parce qu'il y a peut-être des
personnes. À l'École des Mines, c'est 60 boulevard Saint-Michel, à la salle Vendôme.
Et donc c'est le 7 novembre.
Le 7 novembre à 19h.
Oui. À 19h. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés prennent note.
Alors je poursuis en disant que tout ça est totalement bénévole.
On s'en doutait.
Ça va s'en venir, mais il faut se
revenir
en disant. Moi, je vais essayer d'être moins pessimiste que mon voisin de droite et tout le monde. Je suis.
Essayer n'est pas suffisant. Est-ce voilà. que vous l'êtes moins?
Oui, je le suis. Bon. Je le suis. D'abord, je suis très critique vis-à-vis de ce que le gouvernement et le pouvoir en France a réalisé par rapport à cette question. Ça, c'est sûr. Mais en ce qui concerne, en disant que je suis un peu moins pessimiste, c'est en ce qui concerne, l'appréhension globale du problème. Malheureusement, le changement climatique, on sait bien, c'est un problème global. Et il faut voir que, peu ou prou, on peut dire que l'humanité est face à son destin. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première fois qu'il faut que l'ensemble des pays prennent en main, élaborent quelque chose qui résolve un problème qui s'oppose à tout le monde. Alors, il faut comprendre, et Olivier tout à l'heure disait qu'il y a eu Kyoto et depuis c'est retombé. Alors, c'est vrai. Il faut voir que dans notre groupe en particulier, par exemple, nous avons tenté de suivre et d'étudier précisément le processus de gouvernance internationale de cette question, c'est-à-dire l'ensemble des conférences internationales qui ont lieu chaque année, à peu près fin novembre, début décembre, ce qu'on appelle les conférences des parties, qui ont lieu alternativement dans un pays du Nord et un pays du Sud, et comment ça avance ces choses. Alors, ça avance très lentement, ça je suis d'accord, ça avance extrêmement lentement, et d'une certaine façon, la hausse des émissions et aussi à terme déconcentration dans l'atmosphère, elle se poursuit. Mais néanmoins, il faut voir la difficulté que constitue l'idée de sensibiliser et de faire avancer 192 pays. Bon, il y a quand même des pays qui n'auraient jamais été sensibilisés, qui sont là. Bien sûr, la question décisive, maintenant, on le sent, on le sait bien, ce sont les fameux pays émergents, les quatre grandes nouvelles puissances, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, disons le Brésil et l'Afrique du Sud, qui représentent à elles quatre la moitié de la population mondiale. les quatre, enfin, sont un peu des voies pour les quatre continents. Bon, alors on peut dire, ils n'ont pas signé Kyoto, ils sont en dehors, et finalement les choses n'avancent pas beaucoup, et on sait très bien, malheureusement, que la Chine est en train de construire des périphériques, machin, etc., etc., et des villes.
Et brûle beaucoup de charbon.
Et brûle énormément de charbon. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, j'essaye d'avancer deux ou trois points, là, de faire état, de deux ou trois points qui sont quand même des points positifs, et qui peuvent être des points d'appui pour avoir une vision plus un peu moins noire des choses et se dire on peut s'appuyer là-dessus et qu'est-ce que l'Europe, parce que je crois que l'Europe doit avoir un rôle déterminant qu'elle ne joue pas pour le moment et la France dans l'Europe encore moins que les autres. Bon, mais disons que un des points c'est par exemple le fait que par un jeu dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, entre le GIEC, d'autres organismes d'expertise, etc., et la négociation climatique, néanmoins, de plus en plus de pays ont accepté de publier ce qu'on appelle le bilan national de leurs émissions. C'est-à-dire que par un ensemble de protocoles, de règles, etc., on a essayé de créer la capacité dans chacun des États nationaux, parce que les États n'accepteraient pas, il faut aussi voir ça, que une puissance internationale ou n'importe quel organisme vienne mettre le nez chez eux et leur dise. Voilà. Donc il fallait aussi déclencher cette capacité interne à chaque pays, à chaque grand pays, d'accepter de faire ce bilan, de l'établir suivant des règles communes, donc comparables, et de pouvoir aussi donc surveiller la progression ou pas de leurs émissions. Eh bien, c'est en train de se faire. La Chine a présenté pour la première fois l'année dernière à Montréal son bilan, le Brésil le fait, l'Inde le fait déjà depuis un certain temps, parce que le président en particulier du GIEC est un Indien, est un économiste indien, donc ce n'est pas rien ce genre
conscient,
de choses.
Alors, conscient, donc ce sont des pays qui sont quand même conscients.
Je dirais, bon, pas globalement, pas tous, mais si vous voulez, j'ai... Bon, peut-être suis-je trop optimiste, mais je peux, en tout cas je pense qu'il faut avoir cette idée que les pays du Sud, qui évidemment dans un premier temps étaient exactement sur la position qu'indiquait Olivier, c'est-à-dire nous, finalement c'est le Nord qui a émis pendant des siècles, enfin pas des siècles, mais au moins depuis 1870, la révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, et c'est lui qui a pollué, il s'est développé, il a atteint un certain niveau économique et de développement, alors nous, vous voulez nous empêcher de le faire, alors que nous avons besoin de nous développer. C'est extrêmement difficile de balayer d'un coup de main cet argument. Et donc, nous, on veut de l'adaptation. De toute façon, votre façon de poser le problème, c'est une façon qui est ancrée dans les pays du Nord. Et donc, on entend ce type de discours. Alors, ce type de discours, évidemment, on peut le comprendre, on n'a pas très envie de l'accepter. Hein. Mais néanmoins, je veux... il faut qu'on comprenne exactement où chacun est, parce qu'on ne peut pas être... On ne peut pas rêver. Il faut absolument que l'ensemble des gouvernements de la planète, d'une certaine façon, avance. Et donc, en particulier, ces pays-là doivent le faire. Mais ils ne peuvent le faire que d'abord si les pays du Nord et l'Europe, qui constituent quand même un ensemble de pays qui moralement pourraient, de ce point de vue-là, jouer un rôle, qui n'a pas suffisamment joué. Évidemment, on sait aussi que quand les États-Unis refusent Kyoto et disent « nous, on n'en a rien à faire et notre mode de vie est le mode de vie idéal pour la planète entière », bon, c'est là que réside aussi un nœud
oui, que vous dénoncez aussi, Olivier Goudard.
On a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la coordination internationale et on est très vite enfermé dans des trappes qu'on appelle dilemme du prisonnier, des choses comme ça. C'est-à-dire, plus une coalition d'États se forme pour préserver un bien collectif planétaire, plus ceux qui ne sont pas de la coalition ont intérêt à rester dehors, à laisser faire le travail par les autres et à gagner sur les deux terrains, c'est-à-dire l'économie des coûts et bénéfice d'un climat à peu près correct. Donc tous les modèles jamais de théorie des jeux dans ce domaine montrent que on ne risque pas d'arriver à la grande coalition de tout le monde si les États se comportent comme il est représenté, c'est-à-dire en fonction de leurs intérêts et que nous font des disputes. Les monstres froids, comme on dit. Donc il faudrait autre chose, une aspiration collective qui ne relève pas de la science, disons. Alors, ensuite, il y a des problèmes qui sont à peu près les suivants. Il faudrait que les pays du Nord acceptent de payer trois fois. Une première fois pour prévenir les changements climatiques à venir. Une deuxième fois pour s'adapter au changement climatique qui de toute façon se produira, parce qu'on n'est pas en position d'empêcher tout changement climatique. On est en train de discuter d'une limitation à maximum 2 degrés, mais déjà 2 degrés, ça fera des obligations de s'adapter. Et puis une troisième fois, il faudrait que les pays du Nord payent pour les pays du Sud. Je ne vois pas actuellement politiquement une volonté de payer trois fois pour la question climatique. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ce n'est pas dans la tendance actuelle, dans l'opinion publique, dans la manière dont le personnel politique se saisit de la question, très frileuse, il faut bien le dire. Dès qu'on augmente un petit peu le prix d'essence, c'est un drame, et il faut tout de suite trouver un mécanisme qui permette d'abaisser la fiscalité sur le carburant, alors qu'il faudrait multiplier l'essence par 3, si vous voulez. Si on veut, pas du jour au lendemain, bien entendu, mais assez rapidement, pour donner des signaux économiques qui permettent les transformations dont on parlait. Bon, il s'agit de changer de monde en 50 ans. Changer de monde énergétique en 50 ans. Moi, j'avais fait le calcul, c'est pas compliqué. Le facteur 4 pour la France, ça veut dire que la totalité des émissions de CO2 du pays ne devrait pas être plus élevée que ce qu'étaient les émissions du secteur industriel tout seul en 1990. Alors, à côté, il y a l'agriculture, il y a les transports, il y a l'habitat, les tertiaires, le chauffage, tout ça. Tout ça doit se réduire à ce qu'était simplement le secteur industriel tout seul, en 1990. C'est un changement de système énergétique qu'il faut organiser. Alors, moi, je pense que si on le voulait en 50 ans, c'est ça, de faire une transition énergétique.
On a la technique.
On peut le faire par des tas de moyens, c'est à la fois l'offre, à la fois la demande, l'efficacité énergétique. Tout ça est rebattu, il y a beaucoup de rapports qui expliquent comment, etc. Simplement, ça implique qu'on ne fasse pas plaisir forcément au cafetier, enfin, etc., etc. Comme le problème, c'est le système politique. Le rapport entre le système politique et les citoyens et les modes de vie et le fait que après-demain, le déluge.
Je pense que le système politique, il est quand même très influé par la société, par la volonté du citoyen. Non?
Oui, justement, citoyen, jusqu'ici, il n'est pas manifesté.
Vous trouvez qu'il ne manifeste pas assez, oui.
Il est habitué par la télévision à être spectateur des catastrophes.
Ouais.
Et donc, la passivité devant ce qui se passe et qui est jugée comme inéluctable se renforce pour un peu tout. Regardez les catastrophes politiques annoncées sur l'ex-Yougoslavie, d'autres éléments, les catastrophes se sont produites, et puis voilà.
Bien, est-ce que... Oui, Jacques.
Oui, moi je suis très intéressé, à chaque fois que j'entends M. Goddard a évoqué le dilemme du prisonnier, la théorie des jeux, tout ça, ça part toujours du principe que les gens soient rationnels. On commence à en revenir un peu de cette idée, hein, les théories économiques commencent à parler de l'irrationalité qu'on peut constater en permanence. On se demande pourquoi on ne l'étudie pas plus. Et alors, une question qui me... Les politiques ont besoin de beaucoup de courage, un, pour affronter, ce que disait Marianne, les gens, les consommateurs, qui ne veulent pas changer leur mode de vie, qui veulent garder leur confort. Deux, les lobbies. Les industriels, il y a quand même des intérêts financiers énormes en jeu, et quel est le politique qui est capable de se dresser contre ? À moins d'être un dictateur, et encore, si ça arrive, ça existe en ce moment. Si l'on faisait appel au côté irrationnel des gens, et il y a des spécialistes de cette chose, on les appelle des spécialistes de marketing, qui sont capables de vendre n'importe quoi de totalement inutile à des gens qui n'en ont pas besoin. Et ils sont très forts. Est-ce que c'est ça qui fait fonctionner la consommation dans le monde occidental?
Par exemple.
Merci. Donc, il y a quand même quelque chose là qui m'intrigue. On fait appel à des spécialistes, économistes, prospectivistes. On ne fait pas, à ma connaissance, appel à des publicitaires, à des spécialistes du marketing, qui vont faire rêver les gens, non pas leur proposer, leur imposer de façon raisonnable un autre mode de vie. Vous avez dit le rapport de 4 à 125 quand on va au supermarché par rapport à la supérette du coin de chez soi. Eux essayent de le faire. Monoprix, dans ville, il y a vie, etc., etc. Ils essayent de le faire à leur niveau. Mais je ne sache pas que les économistes se penchent sérieusement sur cet aspect irrationnel, sur cette mine d'imagination et de créativité qui pourrait amener les gens à rêver d'un nouveau changement, d'un changement de vie, et non pas faire appel à leur sens du devoir. On n'en a rien à fiche du sens du devoir. Chacun est parfaitement égoïste. Alors au lieu de faire appel au sens du devoir, faire appel au rêve. Oh, c'est tellement merveilleux de faire ses courses en voiture chez soi plutôt que d'aller avec la bagnole le samedi après-midi. Je suis étonné qu'on ne prenne pas en compte ces espèces d'artistes, entre guillemets, qui font dépenser un fric dans des trucs dont on n'a absolument pas besoin. Et s'ils réussissent ça, ils pourraient aussi réussir à modifier un peu la vision. Les États-Unis, qui sont des maîtres de publicité, quand même, à eux seuls, représentent 25% de la pollution mondiale.
Alors, Jacques, il faudrait demander à ce politique. Oui, moi, je suis d'accord avec lui, hein. Mais la question que je voudrais poser à Olivier Gaudin, mais aussi aux scientifiques.
Mais aussi à M. Gaudin.
Et à M. Gaudin aussi, oui. Je voudrais leur demander quel, en dehors du fait que vous êtes des magnifiques analystes
En dehors, en plus.
Mais c'est vrai que dans notre société française en particulier, parce que c'est celle que je connais le mieux, et puis je suis bien placée pour le savoir, vous ne savez absolument pas valoriser votre savoir, quoi. Vous ne savez absolument pas l'offrir au public. Et vous ne proposez pas au public, mais servez-vous de ce qu'on sait. C'est vrai, ça. Allez, réagissez maintenant. Puisque vous dénoncez le problème des lobbies.
Oui. Ce qui m'a toujours étonné, c'est la vulnérabilité du personnel politique au poids des lobbies. Parce que normalement, après tout, il n'y a plus de financement par les entreprises au personnel politique. Il y a la loi, et les lois sont passées, déjà plusieurs lois. Donc, pourquoi sont-ils si sensibles? Parce qu'il y a la question de l'emploi, toujours, l'emploi, le niveau d'activité du pays, et l'obsession de la croissance. C'est pas compliqué, les choses se résument toujours à la chose suivante. Quand il n'y a pas la croissance, il faut tout faire pour la retrouver, et quand on l'a, il faut tout faire pour la garder. C'est jamais le moment de se poser des questions du contenu de cette croissance et de sa réorientation. Vous regardez les déclarations de tous les ministres de l'économie et des finances que l'on a, de droite, de gauche, depuis les 20 dernières années. Le problème, c'est le taux de croissance. Et c'est un grand succès quand la croissance fait un petit bond, 2,4 au lieu de 2,2. Et quand on vend plus de voitures, c'est très bien. Alors que vendre plus de voitures, ça fait plus de CO2 qui va être émis, etc. Il faut donc s'interroger pas seulement sur le rêve, mais aussi sur la base industrielle du pays, nos spécialisations. Pas de chance, on n'est pas bon en bien d'équipement, on n'est pas tellement bon dans tout ce qui est économie d'énergie, les trucs électroniques, etc. C'est plutôt bien d'ailleurs, comme vous le savez. Par contre, on a plein de voitures. On a organisé toute une activité industrielle autour de l'industrie automobile. On ne s'attaque pas à l'automobile chez nous. Les Anglais, parce que le fait, ils ont ruiné leur industrie automobile, il n'y en a plus. Alors, ils ont augmenté le prix des carburants de manière forte en une dizaine d'années. Tant on sent par an, on augmente. Bon. Il faut donc réfléchir à la reconversion industrielle qui accompagne une stratégie de développement durable sur la question du climat. Pour le moment, je n'ai jamais vu les pouvoirs publics s'orienter dans une direction de ce genre. Il faut veiller à côté de l'industrie automobile, il faut la reconvertir. Il faut faire autre chose. Il faut faire des transports compatibles avec la contrainte climat.
Mais on pourrait le faire si on le voulait.
On pourrait, mais ça implique une coordination qui n'est pas seulement le suivi sur des marchés, de savoir si M. Carlos Ghosn a vendu plus ou moins 2% de voitures par rapport à l'an dernier, etc. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous.
Moi, je voudrais dire un mot sur l'industrie automobile. qui est un exemple extraordinaire d'accaparement du savoir, des matériaux, de l'énergie. Parce que les fabriques des outils que nous, automobiles que nous avons sont produits grâce au marketing qui a fait allusion, et en fait, elles ne sont faites ni pour durer, ni pour être entretenues, ni pour être réparées. Excusez-moi, j'entretiens un peu mon voiture moi-même, je vois ça de près. C'est fait, c'est parti pour ça. Alors, vous ne me croyez pas que pour le moment, vous visez ma tante cause, un système aussi puissant, aussi bien organisé. Vous venez de faire allusion au, j'allais dire au tabou, en quelque sorte, qui est lié à la croissance. Vous vous souvenez certainement qu'il y a eu, en son temps, le Club de Rome, qui a été controversé, critiqué, etc. Peu importe ses conclusions. Mais à l'époque, je me souviens avoir participé à un colloque analogue à celui-ci, et d'avoir posé la question, a-t-on réfléchi à un modèle de société avec un taux de croissance zéro ? Question complètement anodine, et qui peut correspondre d'ailleurs à une évolution très ralentie de la démographie dans des pays comme les nôtres. Inutile de vous dire que ce genre de question apparaissait comme totalement stupide. Et vous venez de dire à l'instant que tous les modèles qui nous sont proposés et qui paraissent d'une évidence totale sont basés sur la croissance. Si nous n'avons pas la croissance, ça ne marchera plus. Et on revient sur l'énergie, sur les automobiles, n'importe quoi, la fabrication des frigidaires et tout ce que l'on. Voilà. Qu'y a-t-il à dire à ce sujet donc ?
Bien sûr. D'abord, je ne suis pas un partisan de la croissance zéro au sens de la croissance économique zéro. À l'échelle mondiale, c'est une part évidente compte tenu de l'ampleur des besoins non satisfaits de population dans la misère. Bon, on ne va pas leur dire que vous êtes très bien là, restez-y. Ensuite, même pour nos pays, il faut savoir quelle est le sens politique de la croissance. La croissance, c'est donner la perspective à tout le monde d'avoir une situation qui s'améliore. Si on a la croissance zéro, c'est un jeu à somme nulle. Ce que les uns gagnent, les autres le perdent. Ça pose des problèmes qui ne sont pas économiques. L'économie gère la rareté, après tout, ils sont pas un problème. Problème politique considérable. Et notre société, en tant que telle, tenait jusqu'ici parce que chaque groupe social pensait, quelle que soit sa position dans la hiérarchie sociale, pensait pouvoir voir sa situation s'améliorer à l'avenir. Et ce qui caractérise la période, c'est qu'on commence à réaliser que nos enfants seront moins chanceux que nous. Et que certains ne bénéficieront pas de l'ascenseur social. C'est ça l'arrière-plan véritable de la question de la croissance. Alors, si on, tant qu'on ne traite pas cette question-là, on peut dire des tas de choses sur... techniquement, on pourrait faire la croissance zéro, après tout, c'est, on règle des manettes différemment, mais la réalité sociale qui est derrière, alors là, c'est tout à fait autre chose. Donc je pense que même pour nous, on a besoin de maintenir une croissance. Maintenant, cette croissance, c'est forcément une croissance matérielle, c'est forcément une croissance de la consommation énergétique, ni des flux de déchets, etc. Et donc, c'est tout le thème du découplage, qu'on appelle ça, le découplage entre la croissance économique, qui fait appel à l'inventivité humaine, au progrès technique. Mais pourquoi ne pas avoir un progrès technique qui nous amène à être plus modeste dans notre impact sur l'environnement, et qui soit spécifiquement orienté là-dessus. Bon, pour le moment, le progrès technique, il est tous azimuts. Il n'est pas spécialement économe des ressources naturelles, pas spécialement économe de l'impact environnemental. Il n'est pas fait pour.
Et ça commence à frétiller quand même. Oui. C'était là chez les entreprises, non ?
Ah, ça frétille, mais comme c'est ça, ça frétille. Mais on n'est pas dans le facteur 4.
C'est déjà ça.
Oui, c'est déjà ça. Mais
il y a quand même une...
Il y a une question d'échelle, si vous voulez, dans les phénomènes en concret. On n'est pas à pouvoir se contenter d'un frétillement.
Non, c'est sûr. Voilà.
J'ai peut-être apporté un grain de sel.
En frétillement ?
Oui. Je crois qu'il y a vraiment un problème d'instrument de mesure. Qu'est-ce que mesure l'instrument de la croissance ? Lorsque l'eau qui était gratuite devient payante, ça fait de la croissance. lorsqu'il y a un accident, un pétrolier qui relâche du gazoil et que ça demande une catastrophe quelconque, ça s'appelle la croissance. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on mesure. On mesure l'activité marchande. L'activité marchande, c'est l'affaire du lobby des marchands. Le lobby des marchands, c'est essentiellement celui qui nous vend des choses dont on vend partie et nous n'avons pas besoin. Je signale que 2006 est une année historique. C'est l'année, il y a un colloque récent en Australie sur ce sujet, c'est l'année où les gens en surpoids sont plus nombreux que ceux qui ont faim. 1 milliard contre 830 millions. Donc on voit bien, si vous voulez, l'analyse que vous faites, qui est celle de Patrick Lelay. Notre métier, c'est de préparer les neurones du spectateur à recevoir le message de Coca-Cola ou de McDonald's, hein, Super Size Me. Et bien, c'est fait. C'est fait. Donc, le moment est venu de proposer autre chose. Et autre chose, en effet, sous forme d'un modèle de modèle de comportement. Ceci dit, je voudrais ajouter, je crois que Olivier a regardé Godard, il a un nom célèbre en prospective, à Godard. Je suppose que vous le savez. L'inventeur des fusées.
Avec 2D.
Avec 2D, en effet, oui. Mais je crois que cette question, on est en train de passer à ce qu'on appelle l'économie cognitive, c'est-à-dire quelque chose qui va se jouer vraiment dans le mental. Et je crois que ce que vous disiez, c'est tout à fait ça. Mais le mental actuellement est quand même sous influence des 3 heures et quelque chose que les citoyens moyens passent devant leur télévision. Cette influence commence à diminuer grâce à Internet.
Ouais.
Et Internet, c'est la communication à la base. Or, actuellement, si vous voulez, qui est-ce qui pense à long terme? Un élu pense à échéance électorale.
Yeah.
Un industriel pense à un an. Hein, parce que, ou même à 3 mois, parce qu'il y a des financiers qui lui demandent des résultats tous les 3 mois. Les seuls qui pensent à long terme, c'est les citoyens, et notamment les citoyens qui ont des enfants, parce qu'eux, ils voudraient bien quand même que leurs enfants. Et les citoyens, là, ils peuvent communiquer directement entre eux par Internet s'ils sont passionnés. Et c'est vrai qu'ils commencent à se constituer des communautés, des collectivités. Une communauté du logiciel libre. Alors là, on voit très bien, hein, le logiciel libre d'un côté, les lobbies avec TF1 Vivendi, et tous les gens, etc., de l'autre, si vous voulez, et les politiciens, pour l'instant, sont encore du côté des lobbies, parce qu'ils pensent en effet qu'aux prochaines élections, c'est TF1 qui va faire la décision.
Ça va changer vite.
Mais ça va changer. Ça va changer. Alors qu'est-ce qu'on fait pour que ça change et comment? Donc c'est ça qu'on voudrait discuter entre nous. Je refais l'offre que j'ai faite tout à l'heure.
Le 7 novembre.
Oui, moi je ne suis pas un expert comme tous ces gens qui viennent de se
prendre
la parole.
Ici, hein.
Mais j'étais un petit peu gêné tout à l'heure quand on a fait le procès des lobbies du gouvernement. J'ai trouvé que c'était un petit peu des boucs émissaires, un peu la facilité. Parce que je me disais en écoutant, un gouvernement dans le fond. Il agit en fonction des citoyens, puisque c'est les citoyens qui l'ont élu, donc il essaie de leur faire plaisir. Pour celui qui prend la décision, c'est le citoyen. Les lobbies ou les industriels, ça a été dit, ben, finalement, eux, ils sont victimes des consommateurs par le jeu du marché. Donc, c'est facile de dire le gouvernement, les lobbies, mais si on voit le sens des choses, c'est le citoyen par le jeu des élections ou de la démocratie, c'est le consommateur par le jeu du marché, qui font ces choses-là. Donc, pas le but, c'est plutôt au niveau du citoyen et du consommateur qu'il faut essayer d'agir. Monsieur, vous disiez, les marketeurs, on peut peut-être les utiliser pour vendre du rêve, mais je crois qu'en réalité, les publicitaires ne vendent pas du rêve, ils vendent du désir, enfin, ils vendent du plaisir, plus exactement, ils vendent du plaisir. Et le malheur, c'est que ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas du plaisir. On leur demande de serrer la ceinture, de changer les niveaux de vie. On leur demande, un peu comme Churchill disait, du sang et des larmes. C'est un petit peu, enfin, c'était un petit peu forcé comme ça. Mais le challenge qui nous attend quand on entend ça, c'est affreux, quoi. Prenez le consommateur moyen, aller demain faire ses courses à pied à la supérette, pour lui c'est affreux, donc il faut lui expliquer. Quand on regarde, si le consommateur n'est pas capable d'agir, ça veut dire qu'il faut remettre en cause le circuit démocratique.
Mais c'est bien pour ça qu'Olivier Godard est très pessimiste, voilà, sur tout ce que nous pouvons entreprendre aujourd'hui. Hein. C'est ça, Olivier.
C'est raisonnable.
J'aurais simplement une question à poser, c'est au sujet des sources d'énergie. Parce que si on imagine une société basée sur, par exemple, l'hydrogène ou utilisant de l'énergie électrique, c'est-à-dire il faut imaginer pas de bouleversement extrêmement important dans la vie quotidienne, simplement en changeant le type de motorisation des voitures, à moins que H2O soit un gaz à effet de serre.
Il faut produire
de l'hydrogène, donc il faut aussi, ou alors il faut peut-être utiliser des piles à combustible, etc. Donc au niveau technologique, il y a peut-être des solutions qui permettraient d'avancer, ou les voitures hybrides, peut-être, j'en sais rien, et ces aspects-là ne bouleverseraient peut-être pas trop la vie et seraient peut-être politiquement plus acceptables.
Disons que l'hydrogène
n'existe pas. L'hydrogène
n'existe pas de façon exploitable comme ça dans la nature. Il faut le fabriquer. Pour fabriquer, il faut de l'énergie primaire, donc du pétrole, du charbon, du gaz, ou du nucléaire, ou d'autres choses. Mais ça ne résout pas le problème dans la mesure où ça permet effectivement de transporter de l'énergie de façon peut-être plus efficace que des batteries au plomb, mais n'empêche qu'il faut quand même une source d'énergie à l'origine. Et les sources d'énergie à l'origine, eh bien malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de remplacements qu'on puisse imaginer en termes de physique, tout simplement. Il faut bien comprendre que d'une part, on a l'énergie solaire que l'on reçoit du soleil, qui nous permet de faire fonctionner, par exemple, les panneaux solaires, qui sert à faire tourner la machine climatique, donc qui fabrique des vents, faire tourner des éoliennes, etc. Donc la plupart des énergies renouvelables sont en fait de l'énergie météorologique produite par le soleil. Par ailleurs, on a aussi la matière organique, le bois, qui est aussi de l'énergie solaire, qui est aussi du soleil, et on a aussi du charbon, du pétrole et du gaz qui ne sont en fait que de l'énergie solaire qui a été stockée de façon bienveillante par Dame Nature il y a 10 millions d'années. Et voilà, enfin, je veux dire, on a vite fait le tour. Donc après, il y a la solution nucléaire qui effectivement est une option possible, mais on ne peut pas espérer trouver des sources d'énergie miracles comme ça à l'avenir. Donc il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose.
Oui, je vous l'apporte après. Il y a ce monsieur qui voulait.
Oui, ben, moi je reviens au début du débat sur la question du consensus. Parce que madame a balayé un peu rapidement l'intervention de Claude Allègre qui a mis quand même les pieds dans le plat en disant je veux bien croire qu'il y a un changement climatique, un réchauffement climatique, je veux bien croire à des catastrophes, mais le tout CO2 qui explique tout, ça ne me convient pas. Et si je me souviens bien, son argument c'était de dire l'inondation entre 20 cm et 15 mètres ou 30 mètres, selon les scénarios, j'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes qui se posent sur ce scénario catastrophe d'une augmentation d'un niveau de la mer supérieur à 20 cm. D'où vient l'eau? Il y a beaucoup de questions scientifiques qui ne sont pas balayées du tout d'un revers de la main. La question de l'amiante est assez compliquée par ailleurs. Simplement, sur la question du consensus, quand bien même il y a un consensus, ce n'est pas du tout une preuve, d'un point de vue épistémologique, que la science avance. Je rappellerai récemment simplement des consensus qui ont fini malheureusement. Dans les années 70, il y avait un consensus pour dire qu'il y avait refroidissement global. Tous les scientifiques étaient d'accord. Moi, je me souviens, bon, à l'époque, j'étais abonné à une revue qui n'est pas tellement scientifique, mais ça fait, ça m'intéresse. Je me souviens d'une couverture en 83 qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. On voyait Notre-Dame sous les glaces. Et c'était un consensus également.
Ça correspondait, disons, à l'ère du temps, où on avait beaucoup plus peur.
L'ère du temps a peut-être changé aujourd'hui, voilà. Mais aussi la faute de l'homme. C'était aussi la faute de l'homme qui polluait, qui allait faire refroidir de plusieurs degrés la température.
Et ça correspondait aussi à une réalité, hein, tout simplement.
Peut-être.
Effectivement, si on regarde les courbes d'évolution de la température.
Le climat change en permanence. Ça, c'est, je pense que personne ne va remettre ça en cause. La question, toujours, c'est le point fondamental, c'est l'homme responsable du changement climatique.
Il n'y a pas que l'homme, il y a aussi des variations d'activité solaire, il y a aussi des variations du volcanisme.
Voilà.
Et tout ça, c'est parfaitement pris en compte. Hein. Il faut bien en avoir conscience. C'est des choses qui sont évaluées de façon la plus rigoureuse possible. Et en ce qui concerne l'activité solaire, alors c'est vrai qu'il y a une augmentation de l'activité solaire dans les décennies récentes. Et ça a été pris comme argument pour... on va dire remettre en cause l'influence du CO2, mais si on fait les comptes, on s'aperçoit que le rôle du soleil est très probablement mineur dans le réchauffement qu'on a vécu ces dernières décennies. Il y a tout un tas d'arguments relativement simples que tout le monde peut comprendre. Si c'est le soleil qui chauffe plus, il fera plus chaud en été qu'en hiver. Alors, c'est le contraire qu'on observe. Bon, ça prouve bien que c'est pas lié au soleil, c'est lié à l'effet de serre. Il y a tout un tas d'arguments très simples et d'arguments beaucoup plus sophistiqués qui démontre de façon assez rigoureuse que la majeure partie du réchauffement que l'on observe actuellement est liée au CO2. Et je voudrais, ce qui n'exclut pas d'autres sources de variation. Il peut y avoir 10% ou 20% des variations récentes qui sont liées à des causes naturelles. Ça, évidemment, ça existe. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que cette idée que le CO2 réchauffe l'atmosphère, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui a été déjà dit à la fin du 19e siècle par Arrhenius. Et donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas une nouveauté dans la communauté scientifique. C'est, je dirais, la nouveauté maintenant, c'est qu'on est capable de faire des prédictions assez détaillées de tous les processus radiatifs dans l'atmosphère, de la circulation atmosphérique, etc. Donc ce que pouvait dire Arrhenius il y a un peu plus d'un siècle en faisant des calculs sur un bas de page en nous prédisant un réchauffement de 4,5 degrés pour un doublement de CO2, maintenant, un siècle plus tard, avec les ordinateurs que l'on a à notre disposition et des milliers de chercheurs dans le monde, eh bien oui, on dit effectivement... finalement, il n'y avait pas si faux que ça.
Je continue juste, mais sur les milliers de chercheurs, si on regarde le GIEC, en fait, est apparu assez tard dans toute cette polémique, puisque le climat intéresse l'homme de tout temps, effectivement. Le CO2, effectivement, vous dites depuis le 19e siècle, et on sait beaucoup de choses sur le climat depuis longtemps, sur les cycles astronomiques, sur beaucoup de choses qu'on a pu étudier. Simplement, il y a eu des conférences où les climatologues seuls, entre eux, avant que les politiques s'en mêlent, se réunissaient, notamment en Autriche, à Villars. Et en 80, en 85, en 87, il n'y avait pas de consensus. En 88, le GIEC est créé suite à une énorme sécheresse aux États-Unis, un rapport de la NASA qui dit « c'est l'homme, c'est le réchauffement, la NASA est au point, va vous montrer par A plus B, que c'est un réchauffement dû aux émissions de CO2 uniquement ». Et à partir de là, effectivement, il y a des milliers de personnes qui écrivent dans le GIEC, mais on apprend par exemple, là je l'apprends ce soir, que le président est un économiste, donc il est le président d'un groupe de climatologues, d'un économiste. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que dans le GIEC, il n'y a même pas 1% de climatologues.
Mais c'est pas du tout, monsieur.
Il y a des glaciologues, il y a des sociologues, il y a des historiens.
Il y a des isotopistes,
c'est-à-dire des gens qui savent quand même de quoi ils parlent dans leur domaine, mais qui n'ont pas forcément une vue d'ensemble. Je continue juste, mais je vais peut-être vous faire rebondir. Moi, je suis assez près des travaux de Marcel Leroux, qui est un climatologue. Il existe, il est même reconnu à l'échelle internationale, puisqu'il est, selon l'ONU, il est le climatologue référencé pour le climat tropical subsaharien. Donc il n'est quand même pas, il n'est pas sorti de nulle part, c'est un vrai climatologue, c'est pas un ministre en manque de notoriété, et il se bat quand même pour montrer que c'est pas simplement une personne dans son camp, il y a certaines... Là, il vient d'y avoir, par exemple, en septembre 2006, à Stockholm, l'Institut Royal de Technologie vient de faire un débat contradictoire entre les warmers et les sceptiques. Pour résumer, les tenants du réchauffement global dû à l'homme...
Cette illusion de vouloir mettre en parallèle 2 ou 3% de la communauté des scientifiques concernés par la construction des modèles du climat. Parce que la construction des modèles du climat, bon, je crois que Denis pourrait le raconter, Didier pourrait le raconter certainement beaucoup mieux que moi, mais néanmoins, c'est quelque chose qui, en 20 ans, à concerner des communautés épistémologiques et scientifiques de plus en plus diverses, parce que les modèles du climat, effectivement, couplent à la fois des phénomènes qui ont lieu dans l'atmosphère, dans les océans, dans la végétation, le cycle du carbone, les réactions chimiques qui ont lieu dans l'atmosphère, etc. Donc, de plus en plus de scientifiques sont concernés. Quand vous dites qu'il y a 1% de climatologues au GIEC, mais c'est totalement faux. Enfin, c'est totalement faux. Il y a trois groupes au GIEC qui sont à peu près d'égale importance. Le premier étant celui des climatologues, et celui-là a eu absolument a été hégémonique pendant toute la première période. C'est vrai que maintenant qu'un consensus très fort a émergé, il faut, dans la communauté des experts, il faut élaborer un certain nombre de stratégies pour essayer de lutter contre le changement climatique. Donc, avoir des économistes pour aborder des questions de réponse dans les États du Sud, dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, etc. Et donc, il est normal aussi que d'autres communautés scientifiques jouent leur rôle. Il est important, par exemple, que des spécialistes des sols et des forêts, on sait le rôle que la forêt amazonienne joue dans la question de la séquestration du carbone, etc. Donc maintenant, aussi, dans le groupe numéro 2, interviennent des spécialistes de ces questions, de l'usage des sols, de l'agriculture ou des forêts. Mais ça ne veut absolument pas dire que les climatologues ne jouent pas leur rôle. Maintenant que le président soit devenu, après avoir été deux fois de suite un climatologue, soit devenu depuis 2002 un économiste, ça ne change rien. Le président du groupe 1 est un climatologue.
Enfin, c'est une anecdote simplement.
Non, ce n'est pas une anecdote parce que vous cherchez à disqualifier. Par votre intervention, tout un travail qui implique une communauté internationale très importante.
Enfin, je ne parlais pas même pas des pluies acides, où on nous a dit qu'il fallait faire des pots catalytiques, de l'essence en plomb, avant de se rendre compte que finalement, ce n'était pas ça le facteur des maladies sur les forêts. Le trou d'ozone a disparu à partir de 2001, il vient de ressurgir maintenant plus grand que jamais en 2006. En octobre 2006, il bat des records, soudain, de manière assez peu expliquée. Une autre chose, le GIEC.
Pour une raison simple, c'est que la durée de vie des composants émis dans l'atmosphère est très grande et ça ne va pas disparaître comme ça.
Je vais un dernier point avant de rendre la parole. Le GIEC lui-même, pendant plus de 10 ans, nous a annoncé, dans ses rapports successifs, qu'il y aurait une diminution des cyclones. Il y avait un consensus.
Non, il n'y a absolument aucun consensus scientifique. Je pense que vous avez peut-être lu un peu rapidement les rapports en question.
Bon, écoutez, peut-être, mais je pense qu'au moins, vu quand même l'enjeu et l'ampleur et le coût des décisions politiques qui sont prises un peu rapidement à mon goût, enfin au goût d'un certain nombre de personnes, et le coût est énorme, il me semble qu'un débat contradictoire mériterait quand même au moins, par exemple, l'Académie des sciences. Je sais qu'elle organise un débat en janvier. Aujourd'hui, il est hors de question, visiblement, pour le président de laisser la parole aux quelconques dissidences, parce que, effectivement, les enjeux sont tellement importants, on nous prend en otage en disant vite, il est minuit moins deux, donc il faut plus se poser de questions.
Parce que ça fait trop longtemps qu'on est dans le consensus en permanence. Oui, il faut prendre des décisions aujourd'hui, moi je le pense.
Il y a eu des périodes où la communauté scientifique, en effet, disait des choses qui ne se sont pas avérées tout à fait justes. Mais dans le cas présent, le statut épistémologique de la question a changé au moment où Laurius a fait ses travaux sur les glaces. En allant regarder ce qui s'était passé depuis 400 000 ans dans les glaces de l'Antarctique, et en mettant en corrélation les paramètres, il était clair qu'il y avait une relation entre la température et la densité de CO2. Et cette densité de CO2, on la voyait augmenter au moment de la révolution industrielle. Donc nous, quand on a fait notre travail de prospective, pour nous, ça ne faisait pas un pli. C'est-à-dire, du point de vue de l'ingénieur, les choses étaient là. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait après. Alors bon, Allègre a beau raconter des trucs, je veux dire, c'est... les faits sont là. Hein, les faits sont là et le raisonnement tient. Donc il y a effectivement des problèmes de conflit d'opinion à l'intérieur de la communauté scientifique, mais je dirais que quand 2 plus 2, il y a quelqu'un qui dit 2 plus 2 sont 4, et quelqu'un d'autre qui dit 2 plus 2 égale 5, il ne s'agit pas de faire comme les énarques, c'est d'être transigé à 4,5. Il y a quand même des choses qui sont évidentes et claires.
Ah oui. Ah oui, mais parlez bien près du micro, hein, parce qu'on vous entend pas assez.
Ok, un peu retardé, j'aimerais ajouter quelque chose à la discussion, plutôt côté social-économie, parce que j'aime bien qu'il y a une combinaison d'experts sur place. Moi, je suis allemand, et je suis un peu l'histoire en ce qui concerne la consommation d'énergie et comment ça va se dérouler. Peut-être que vous savez, en Allemagne, au moment, il y a un sommet et on se bat. Hein. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, à mon avis, comme on a déjà discuté, comment faire acheter les peuples certains produits. Est-ce qu'il faut vendre une rêve? Est-ce qu'il faut vendre une chose qui est plus économique? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à mon avis personnel, ça ne marchera jamais si les gens ne le veulent pas. Et là, ce qui me manquait pour l'instant, c'est l'aspect de l'éducation. Parce que je sais qu'en Allemagne, par exemple, ça commence dans l'école primaire. Une éducation qui est ciblée sur la consommation de l'énergie dans la famille, dans la maison. Où on apprend un peu quelles sont les unités, avec quels moyens est-ce qu'on peut mesurer qu'est-ce qui est la consommation. Non. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect que j'aimerais dire sur le plan macroéconomique, plutôt, c'est l'industrie et la transformation de l'industrie. Par exemple, l'automobilière, ça fait direct et indirect un tiers en Allemagne. Donc, grave. Maintenant, il est devenu clair que tout ce qui est industrie écologique rentre dans la même gamme en ce qui concerne emploi. Et emploi, c'est encore lié d'une façon ultra directe avec la politique. Parce qu'autrement, on ne se vit pas les prochains 4 ans. Là. Et tout ça, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence justement en ce qui concerne exactement ça entre la France et l'Allemagne. Qui est important, tout le reste me paraît très pareil. Hein. Et là, ce qui m'intéresse, c'est aussi la stratégie et les options sur le niveau mondial quand on parle des pays émergents. Parce que eux, ils ont un intérêt fort du départ d'installer des infrastructures qui sont de la dernière génération structurellement. Technologiquement, mais aussi structurellement. Par exemple, une distribution décentralisée. Et là, j'aimerais avoir vos commentaires, des experts. Si vous voyez des exemples positifs sur le plan social, mais aussi sur le plan économique, sur la planète.
Bah, je crois que vous avez deux interlocuteurs là qui vont vous répondre. Qui veut commencer, Ami Dahan ou Olivier Godard?
Merci. Merci à votre... moi, je crois que si on compare la situation, je ne suis pas une experte non plus de la situation en Allemagne, mais je crois que d'abord, il faut voir que le processus, par exemple, d'expertise ou de prise, qui est d'ailleurs, qui va avec la prise de conscience dans la population sur la question du changement climatique, est assez différent en Allemagne. En particulier, par exemple, il y a eu des commissions parlementaires en Allemagne, 2 commissions parlementaires à quelques années d'intervalle, qui fonctionnent sur un mode, parce que c'est une tradition politique qui est différente de celle de la France, où ces commissions parlementaires réunissent à la fois font appel réunissent autour d'une table, si on peut dire, à la fois des associations, des industriels, de la société civile, évidemment des politiques ou des syndicalistes, et doivent débattre des questions. Donc, pour arriver, d'une certaine façon, à des propositions ou une prise de conscience. Et le fonctionnement de ces commissions parlementaires, qui
n'est pas a priori consensuel, qui doit arriver à un consensus, c'est une conception qui, d'une certaine façon, a s'appuyer sur le fait qu'il y avait une prise de conscience, le fait aussi que les écologistes, par exemple, ont eu dans l'histoire de l'État fédéral un poids politique important à une certaine époque, avec des ministres de premier plan, évidemment, avec Oscar Fischer, etc. Bon, mais en tout cas, cette commission a eu un retentissement et il y a une importance quand même de ce problème qui est beaucoup plus grande que chez nous, où ça fonctionne suivant la tradition de l'expertise française, c'est-à-dire on convoque des experts, des grands corps, des gens qui savent, et puis l'État va trancher, un peu en dehors d'un certain débat public ou d'une controverse directement publique. Et en même temps, quand après l'État tranche ou ne tranche pas, mais n'a pas la volonté véritablement politique forte de porter le projet, de le défendre, etc., ben, il ne se passe plus rien. Et donc on a eu, par exemple, la Mies, qui a fait un travail très intéressant, mais qui n'a été suivi, on peut dire, de rien. C'est-à-dire aucune mesure politique d'application, de mise en œuvre, n'a véritablement été prônée par le gouvernement ces dernières années. En Allemagne, on sait très bien que, par exemple, depuis Kyoto, avec le mécanisme de ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre, les MDP, les contrats qu'on peut... où les pays peuvent vendre des mécanismes aux pays du Sud et ça leur permet d'abaisser leurs objectifs. Mais en même temps, l'Allemagne s'est quand même saisie bien davantage que nous de ce problème. En particulier, elle a développé le photovoltaïque et l'exportation du photovoltaïque comme un point technologique important, un point fort des Allemands par rapport à nous. Alors qu'en France, les énergies renouvelables sont encore,
Oui, mais le débat en Allemagne n'a-t-il pas plus porté sur l'énergie nucléaire que sur le changement climatique ? Parce que la politique remarquable de l'Allemagne en faveur de la mobilisation de toute une série de ressources, qui d'ailleurs a eu un impact considérable au niveau de l'emploi, a été motivée au départ par la décision qui avait été prise d'arrêter l'énergie nucléaire. Et à ce moment-là, je vois que notre collègue allemand opine du chef, à ce moment-là, il y a eu une mobilisation assez remarquable.
Il est content, hein,
mais ce n'était pas sur le changement climatique, c'était sur le problème de l'énergie nucléaire. Et c'est clair que l'opinion publique en France et en Allemagne se distingue très nettement. Et aussi, là, on voit bien qu'il y a des raisons historiques qui expliquent pourquoi l'énergie nucléaire n'est pas considérée de la même façon des deux côtés du Rhin.
Non mais tout ça, je vais donner bien sûr la parole à Olivier, mais je crois qu'il faut quand même prendre conscience que, quel que soit ce que vous avez dit, monsieur, etc., la volonté politique du gouvernement ou du pouvoir à un moment donné joue un rôle déterminant. S'il n'y a pas de volonté politique, qui doit évidemment mettre en scène, etc., un débat public et s'appuyer sur une évolution des mentalités, qu'elle peut susciter, accompagner, stimuler, etc. Bon, sans volonté politique, il n'y a rien.
Pourquoi n'y a-t-il pas de volonté politique ?
Vous n'énervez pas, vous essayez de résoudre le problème calmement.
Il y a des mesures. Je voudrais remonter à l'intervention précédente, d'abord, pour souligner deux points. D'abord, je n'ai jamais vu aucun opposant à la théorie du changement climatique faire un modèle montrant que le climat allait se refroidir dans la période récente. Il y a des gens qui ont critiqué, mais ils n'ont pas été capables de produire un modèle cohérent avec tous les savoirs théoriques sur le fonctionnement, etc., et aboutissant au résultat indiqué. Il y en a pas. Tu peux le confirmer, il y en a pas. Donc, par contre, tous les modèles qui existent vont dans le même sens. Alors, on peut dire que c'est une espèce de complot, enfin, dans le domaine scientifique, où il y a des gens qui sont à la fois chinois, qui sont d'Arabie Saoudite, d'Amérique, dont les pays ont des positions que vous savez, c'est difficile d'imaginer que tous ceux-là ont comploté ensemble pour affirmer une thèse qui serait contraire à la réalité. Bon. Il faut vraiment être... Deuxième point, c'est le rapport de la présentation de résultats scientifiques et puis de l'opinion publique via la presse et les médias. La science, elle est faite précisément de démarches de chercheurs, mais qui confrontent leurs résultats et qui sont soumis à la critique. Donc ce qui fait le sérieux et la validité des résultats, c'est le processus de critique collective. L'énoncé d'un chercheur isolé, c'est intéressant comme ça, comme point de départ, mais ce n'est vraiment pas un élément de valeur scientifique, même si c'est M. Alleg ou un autre qui l'énonce.
Or, dans la représentation médiatique des choses, on met au même niveau les résultats du travail du GIEC qui synthétise la science mondiale à partir de plusieurs milliers de chercheurs, qui n'examine que les publications scientifiques publiées dans des revues, un comité de lecture et patati et patata, et puis le point de vue d'un type qui dit « moi, j'y crois pas ». On fait comme si c'était la même chose. Et ça, c'est le problème. Parce qu'il devrait y avoir une hiérarchisation, une différence de traitement considérable entre ces énoncés. Du point de vue de la valeur scientifique, ça ne fait pas de doute. Mais du point de vue de l'opinion, non. Alors ça, je ne sais pas comment résoudre, parce que je ne suis pas un homme de médias, vous l'avez souligné, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Mais en face de cela que quoi. Hein, comment faire en sorte de marquer les différences et de faire comprendre comment fonctionne la science. Et comment on peut, quelle que soit l'opinion de tel individu, c'est pas ça qui compte.
Bah, oui, mais puisque vous m'interpellez, et puis que, puisqu'on parle de Claude Allais, moi je voulais surtout pas réagir sur tout ça, mais vous voyez, j'en parlais de la problématique de Claude Allais avec des gens qui étaient à l'Académie des sciences, et je leur disais, mais comment vous n'arrivez pas à le maîtriser, quoi? Et il me répondait, c'est impossible. Il me répondait, c'est impossible. Alors, après, ils me disent, c'est la faute aux médias. Je dis, écoutez, alors là, je suis désolée, comment ça, c'est la faute aux médias? Ben, ce monsieur utilise les médias pour s'exprimer, mais c'est pas la faute aux médias.
Les médias lui donnent la parole.
On ne peut pas l'empêcher de...
Pourquoi les politiques ont des mandats qui durent 10, 15, 20 ans au lieu d'avoir...
Oui,
mais c'est ça le fond du problème.
Je suis d'accord, madame, mais la faute aux médias, je trouve que c'est un peu facile, quoi. Parce que la faute aux médias, si les médias n'avaient pas de liberté d'expression, comme vous dites, on ne serait plus dans un pays démocratique.
On est d'accord.
Bon, alors à partir de là...
On ne va pas toucher à ça. On est d'accord. On ne va pas toucher à ça. Mais quand même, il y a que du monsieur donner la parole, autant de temps de parole à quelqu'un qui est venu vers lui, qui dit n'importe quoi, et à quelqu'un qui a une aura scientifique. Quelque chose, je suis d'accord. Mais ce que disait également monsieur, c'est que la démocratie, c'est pas la panacée. Voilà, c'est ça le problème. Les raisons à long terme, c'est les politiques. Les raisons à long terme, c'est pas le problème des politiques. C'est le problème des citoyens. Les citoyens ne sont pas capables aujourd'hui de faire leur opinion parce que, ils n'ont pas l'écho de ce qu'il faut entendre. Ben oui, mais c'est. Moi, je peine, c'est pas ça, mais quand même. Quand même, il y a une déontologie chez les médias qui n'existe pas aujourd'hui, qui devrait exister. Il y a une déontologie chez les médias qui n'existe pas, qui devrait exister. On ne raisonne pas à court terme aujourd'hui. Si on parle du changement climatique, on raisonne pour les générations futures. Donc on doit aller au-delà de tout ça, et des petits clivages, des petits trucs, et des petites merdes, et donner satisfaction aux uns aux autres. C'est pas ça, c'est raisonner long terme. Et pour raisonner long terme, eh bien, il faut changer les mandats des politiques. Il ne faut pas que ce soit des mandats de 10, 15 ans à 10 ans, il faut que ce soit des mandats sur un programme, et au bout de 5 ans, eh bien, on change, et on est élu sur un programme, et ça, on fait évoluer la société.
Là, je crois que vous soulevez un problème profond de société, qui n'est pas juste un problème des médias, qui est un problème général.
C'est pas un problème des médias, alors je suis tout à fait d'accord, je dis bien sûr, un petit maillon.
Oui, voilà, les médias sont un petit maillon de cette merde dans lequel on est, il faut bien le dire.
Voilà, et il est triste de constater que des scientifiques de renom ont la même audience auprès du grand public que des politiciens de merde. Voilà.
Bon, je suis assez d'accord.
Oui. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que il y a effectivement en théorie pas de censure dans les médias, mais je n'ai jamais vu ni une chaîne de radio ni une chaîne de télévision dire quoi que ce soit qui puisse nuire à un annonceur. C'est-à-dire quand il s'agit de critiquer des hommes politiques ou n'importe qui de la société civile, ça, on peut s'en donner à cœur joie. Quand il s'agit de dire que telle entreprise automobile aurait mieux fait, nous avons financé dans les années 70 des recherches sur les véhicules hybrides, À cette époque, on était en tête sur les éoliennes, sur le solaire et sur les hybrides. Aujourd'hui, où en est-on ? Je veux dire, aujourd'hui, où en est-on ? Donc, les industriels n'ont pas fonctionné. Depuis 3 ans, sur le site internet de ADS, il y a un projet d'avion à hydrogène. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le diplodocus, la 380. Bon, donc ça, c'est un premier point. Je veux dire, il n'y a pas une collusion politique au niveau des médias, il y a une collusion avec les industriels et les annonceurs, notamment. Et ça, notamment dans les grandes chaînes de télé
aussi avec les politiques,
qui ont des normes...
Oui, mais c'est indirect, les politiques.
C'est indirect.
Ben, il y a des pressions, il y a des autocensures qui sont liées à des problèmes de lobby, comme tu dis, à des problèmes de...
Maintenant, je voudrais ajouter un deuxième point pour compléter ce que disait Amidaro tout à l'heure, à propos de nos amis allemands. Je crois qu'il y a des initiatives. Il y a effectivement un point de vue différent. Je crois qu'Hervé a raison sur le nucléaire. Il y a aussi un point très important qui est des initiatives au niveau municipal. Et ça, on l'oublie trop souvent. L'exemple de la ville de Fribourg est assez extraordinaire. Il y a une combinaison de solaire, de transport en commun, de favoriser le vélo, tout ce qu'on peut faire pour justement passer à un autre mode de vie. Cette municipalité, avec l'autorité qui est celle d'une municipalité moyenne, est arrivée à le faire. Donc là, on voit très bien que le niveau de décision près du citoyen, il a peut-être des chances de fonctionner mieux que les niveaux de décision régionaux ou nationaux. Et ça, c'est très important pour la stratégie à suivre dans les années qui viennent.
Puisqu'on parle de l'Allemagne, je voudrais quand même ajouter un bémol, malgré tout. Dans le cadre de la mise en place du marché européen de quotas, contrôlant les émissions de CO2 des secteurs industriels et des secteurs de production électrique, l'Allemagne a joué le mauvais joueur. C'est-à-dire qu'elle a pesé pour que la répartition des quotas se fasse contrôler à l'échelle nationale, au lieu d'avoir un système européen. Et puis, elle vient même pour la période à venir de redonner gratuitement à toutes ces entreprises de production électrique des quotas gratuits pour l'ensemble des nouvelles centrales thermiques au charbon qui sont construites. Donc on n'est pas du tout dans la voie d'une maîtrise des émissions de CO2 par l'Allemagne qui se rééquipe en centrales à charbon sans vouloir rentrer dans une politique de réduction et qui torpille en fait le marché européen de ce quota de CO2. Donc l'Allemagne... Oui, par des aspects positifs, Fribourg, etc. Et puis par ailleurs...
Donc c'est l'énergie nucléaire.
Par ailleurs, voilà.
L'axe allemand, c'est l'énergie nucléaire, contre l'énergie nucléaire.
L'Allemagne va s'exprimer.
Donc d'abord, je ne représente pas l'Allemagne de tout. Hein. Il y avait une redistribution des droits de pollution CO2 récente et tout le monde a gueulé. C'est clair. Parce que si on, début 2005, ils étaient distribués gratuitement, comme vous l'avez dit, et il y avait un shift pro l'industrie et contre les centrales thermiques. Et ce shift était mal commenté par les industries en Allemagne les plus riches et les plus évanescentes, notamment les concernes qui les fournisseurs d'électricité. Ils font un fric fou pour l'instant et le gouvernement est menacé, hein, je cite, d'argent, et se sent menacé et va évaluer des moyens pour casser l'attitude des fournisseurs d'électricité de se faire imprimer du fric avec des centrales nucléaires qui sont encore en route parce que. Il y a un certain problème en ce qui concerne le vrai coût du kilowatt-heure de nucléaire, parce que pour l'instant en Allemagne, il n'y a pas une seule centrale nucléaire qui était ramassée telle qu'on peut faire en camping après sur le même endroit. Et le coût pour ça, pour faire ça, si on le veut, hein, le coût pour faire ça est inconnu. Et on espère que c'est peut-être dans les 20 milliards d'euros, pendant que le coût pour construire une centrale nucléaire, ce sont 4 milliards d'euros. Donc équiper les 20 milliards dans 40 ans, ça, bon, mais ça c'est vraiment une particularité. Et je veux bien croire que ça a fait un grand bruit, la redistribution des droits de pollution CO2 en Allemagne. Et moi personnellement, je ne vois pas du tout où on va aller en ce qui concerne le nucléaire, parce qu'il y a les deux côtés. Ça c'est une discussion très très lourde. Et voilà.
Sans vouloir lancer le besoin nucléaire contre charbon, parce qu'en fait, on en est un petit peu là, hein, d'un point de vue ressources énergétiques, on peut compter sur le renouvelable, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Donc, ultimement, on va avoir à choisir entre le nucléaire et le charbon. Et l'argument souvent mis en avant par les écologistes, c'est que les déchets nucléaires, ça a une très longue durée de vie, et c'est quand même très embêtant, et on ne sait pas comment faire. Je pense que ça serait bien de poser la même question pour le CO2. Quelle est la durée de vie du CO2? Alors là, je peux vous dire ce que j'en sais. Et il faut quand même savoir que le CO2, on ne parle pas de quelques centaines ou milliers de tonnes de déchets, mais on parle de milliers de milliards de tonnes de carbone qui sont injectées dans l'atmosphère et qui changent donc le climat de la planète et qui vont y rester pour des durées géologiques. C'est-à-dire que, effectivement, on va passer par un pic de CO2 donc qui va être proportionnel à nos émissions dans les siècles qui viennent. Bon, au bout de quelques siècles, de façon assez simple, on peut penser qu'on aura tout brûlé ou alors qu'on se sera calmé, donc on héritera des maîtres du CO2. Et ce CO2 qu'on aura émis initialement, il va rester dans le système océan-atmosphère, alors environ un quart dans l'atmosphère, trois quarts dans l'océan, ce qui aura d'ailleurs pour effet d'augmenter l'acidité de l'océan, donc ça commence à être un souci majeur pour les biologistes marins, parce que quand on met des milliers de milliards de tonnes d'acide carbonique dans l'océan, eh bien, ça a des effets sur les calcaires. Et donc, ce carbone qui va être dans l'océan aura pour effet de dissoudre les calcaires océaniques, donc ce qui va permettre de rééquilibrer le pH de l'océan à des échelles de temps de quelques milliers d'années, ce qui va aussi permettre de pomper un peu plus de CO2. Et après équilibre océan-atmosphère-carbonate, donc disons dans 10 000 ans, il va quand même rester environ 10% de ces milliers de milliards de tonnes qu'on aura émis, c'est-à-dire quand même beaucoup, dans l'atmosphère, qui vont avoir des effets climatiques pendant des centaines de milliers d'années. Donc en fait, c'est assez intéressant de voir que les constantes de temps du CO2 et celles du nucléaire sont les mêmes. Et c'est assez marrant de voir qu'en fait, les seules personnes qui m'ont posé personnellement la question de savoir quel sera le climat dans 1 million d'années, c'est l'ANDRA. Parce qu'eux, ils ont besoin du scénario climatique sur le très long terme. Donc c'est une question qui, je pense, n'est pas présente dans le débat et qui devrait l'être. Puisque en fait, on est confronté au même problème de durée de déchets dans l'environnement.
Ce qui veut dire qu'effectivement, même si on fait quelque chose maintenant, même si on prend des décisions fortes maintenant, on ne verra pas les effets de notre vivant.
Si, si, on verra des effets de notre vivant, puisque l'effet climatique majeur, c'est celui qu'on va vivre, que vont vivre nos enfants et nos petits-enfants. C'est-à-dire, c'est là qu'on va avoir les concentrations les plus fortes. Les effets positifs, mais aussi, parce que je veux dire, les effets positifs, ça se traduit avant tout en CO2 qu'on n'aura pas émis. Hein? Et donc ça, on peut espérer, il faut voir que sur les projections du 21e siècle, il y a des marges d'erreur, et la plus grosse incertitude, elle est d'origine économique, c'est-à-dire on ne sait pas très bien si on va émettre, si on va atteindre des niveaux de 500 ppm ou de 700 ppm, par exemple. Et donc, l'incertitude sur la température qu'il fera dans un siècle, elle est avant tout dépendante de ce qu'on va faire. Et donc, oui, si on fait quelque chose, on pourra s'en rendre compte très rapidement. Mais il faut savoir que si on choisit des scénarios un peu plus chargé en carbone, on va dire,
ça pourra avoir des effets qui concernent pas seulement le climat, mais qui concernent l'acidité de l'océan, qui concernent l'évolution des calottes de glace, qui concernent l'évolution de la vie sur Terre. C'est-à-dire on parle vraiment de transition géologique.
Amis, vous pouvez...
Moi, je voudrais rebondir sur un mot que Didier a introduit un peu subrepticement, bon, qui est derrière beaucoup d'interventions, mais qu'on n'a pas vraiment interrogé. C'est celui de scénario. Le mot de scénario. Maintenant, c'est un mot qui est rentré dans les choses courantes chez les scientifiques et bien sûr chez les économistes. Alors, on fait des scénarios du futur, etc. Et c'est pas Thierry Lodin que vous pouvez évidemment... apprendre bon, cette utilisation. Et je crois que c'est important de réfléchir sur l'introduction de cette idée de scénario. C'est-à-dire, parce que le scénario, c'est d'une certaine façon, ça peut être, par exemple, dans le domaine du changement climatique dont on parle ici, les scénarios, c'est, ça rentre souvent en input des modèles de prédiction climatique à l'horizon 100 ans, 200 ans, etc. Puisque c'est les économistes qui proposent des évolutions, des scénarios d'évolution, des types d'évolution de nos sociétés, et on peut dire de notre civilisation, à l'horizon de 100 ou 50 ou 100 années, et que ces scénarios économiques-là sont traduits en quantité d'émissions de CO2 qu'on va, auxquelles ils correspondent, et ils sont injectés dans les modèles physiques du climat, etc. Or, c'est tout ça pour dire que quand même, avoir un débat public, un débat démocratique, ouvrir dans l'espace public cette question de comment notre société veut évoluer, bon, ça c'est quand même quelque chose d'important. Et de fait, toutes les communautés scientifiques sont en train elles-mêmes d'utiliser un peu en bémol elles-mêmes. Elles ont bâti cette idée qui rentre, et même les économistes depuis un certain temps, le Club de Rome bien sûr avait introduit cette idée de scénario, etc. Le GIEC utilise des scénarios, alors il a introduit depuis 1992 cette idée d'un certain nombre de scénarios qui se distinguent par de la soutenabilité versus du productivisme, des économies fermées et protectionnistes versus des économies ouvertes, etc. Donc il y a différentes... mais tout ça se passe, d'une certaine façon, en dehors, je dirais, d'un espace public qui serait saisi de la question. Et moi, je crois que c'est un déficit démocratique. C'est un peu, et en tant que, je dirais, personne qui, du côté des sciences sociales, travaille avec des collègues, etc., sur l'impact des sciences sur le social et comment le social, etc., peut se saisir, discuter des choses. Je crois que cette question des scénarios est très importante. Nous devons la mettre en avant parce que c'est une image relativement concrète, enfin cette idée est relativement concrète. Les gens se disent comment on va vivre, comment mes enfants vont vivre, est-ce qu'ils vont consommer ceci ou cela, est-ce qu'ils vont aller plus vers une économie qui sera orientée vers la connaissance, un certain respect de la nature, ou on va une exploitation des ressources naturelles, etc. Bon, et il ne s'agit pas effectivement de le poser en termes, et là je suis d'accord avec Olivier, croissance zéro versus croissance, parce qu'on peut imaginer des formes de croissance qui ne soient pas uniquement de la production de biens matériels, qui est évidemment la société de l'information et de la communication et de la connaissance, peut permettre d'imaginer d'autres biens que des biens avec déchets matériels et exploitation des ressources de la nature.
Alors, Annie, justement, vous faites référence à Olivier. Olivier, vous proposez quand même un scénario, justement, qui pourrait peut-être nous permettre de sortir de cette situation, même si c'est un scénario idéaliste, mais quand même.
Il y a plusieurs conditions, mais les conditions politiques, d'abord, c'est au niveau de l'Europe. L'Europe, actuellement, a des positions qui ne sont pas cohérentes. L'Europe veut prendre le leadership sur la question du climat, elle l'a pris. On est les premiers à avoir organisé un marché de quotas de CO2, elle va être un peu volontariste dans cette affaire, dans le cas de mise en œuvre du protocole de Kyoto. Mais en même temps, l'Europe se veut libérale, et l'Europe a est entré dans une logique de négociation du démantèlement de ses protections aux frontières. Et alors, le grand problème avec les émissions de CO2, si on veut faire autre chose que du frémissement à la surface, c'est la compétitivité industrielle des grands secteurs et grands émetteurs. Pensez à la sidérurgie, aux cimentiers et aux autres. Ces gens-là, si vous leur dites maintenant qu'il faut réduire de 20%, 30% leurs émissions, ça implique des surcoûts significatifs. Ils sont sur des marchés mondiaux, ils ferment boutique et ils vont ailleurs. Bon. Ils vont ailleurs, ils vont émettre. Donc, du point de vue du bilan du climat, c'est pas une opération intéressante. Et du point de vue économique pour l'Europe, c'est pas non plus intéressant. Donc, on s'arrange pour que ça n'arrive pas. Mais comme on veut pas non plus mettre de protection aux frontières, eh bien, on aboutit à des faux semblants, comme ce marché de quotas de CO2 que j'évoquais tout à l'heure. Il existe. On l'a mis en place. Toutes les règles, etc., etc. Mais les gouvernements qui ont eu la responsabilité de déterminer le montant du plafond et le mode de répartition de ce plafond ont tous choisi de donner à chaque industrie ses besoins. Donc, en gros, personne ne réduit grand-chose puisqu'ils ont tous ce dont ils avaient besoin au nom de la préservation de la compétitivité. Alors, il y a eu un moment spéculatif sur le prix, c'est monté jusqu'à 30 euros la tonne de CO2, et puis... Après la première année de fonctionnement de ce système, l'épreuve de vérité a abouti au fait que les émissions réelles étaient en dessous des quotas qui avaient été attribués, parce que tout le monde avait suramplifié, sachant qu'il y avait une espèce de distribution de gâteaux gratuits, tout le monde s'est inventé des besoins importants. Ils étaient tous en croissance, et la France n'arrivait pas à croître, mais alors tous les secteurs industriels étaient en croissance. Et alors on a donné pour ça. Et donc, il y avait 20 millions de tonnes de CO2, vraiment dans le cas français. J'avais fait le calcul avant, et ils ont fait 19 millions de tonnes de moins que le quota qu'on leur a donné. Mais ce quota-là, ils le gardent. Ils le gardent pour l'année d'après, ils le gardent pour la période d'après. Ils pourront le valoriser sur le marché. Et c'est, les autres pays européens ont fait la même chose, parce que chaque gouvernement est mis dans la situation, face à son industrie, l'industrie va lui dire, mais si vous m'arrangez, si vous me favorisez pas, ou si vous me défavorisez, alors que le gouvernement d'à côté, lui, favorise son industrie, je vais être perdant. Et aucun gouvernement ne veut faire perdre son industrie. Donc avec cet argument-là, il y a un problème de gouvernance manifeste dans le système, il a fallu avoir une décision centrale au niveau européen. On aboutit à un système qui n'aboutit à aucune réduction significative maintenant, et on s'interroge même si le système a perduré dans la période d'après, parce qu'il se passe rien, et politiquement, le gouvernement semble avoir moins envie encore aujourd'hui de faire quelque chose qu'avant.
Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Donc, il fallait être cohérent. Et la cohérence, c'est de dire, écoutez, pour les grands secteurs dont on vient de parler, il faut une taxe aux frontières, au prorata du contenu en carbone des importations. Et quand on aura fait ça pour tous les pays qui ne jouent pas le jeu de Kyoto, ben ceux-là auront un intérêt économique à essayer de rentrer dans Kyoto.
Donc c'est ça, ça, ce serait déjà une solution.
C'est une mesure tout à fait essentielle. Oui. Je l'ai plaidé à différents endroits. Vous me demandiez qu'est-ce qu'on faisait, nous, les scientifiques, pour essayer de pouvoir... Je l'ai plaidé auprès de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social. Ça a été repris dans le rapport Kosciusko-Morizet et le DO. Et je viens d'apprendre que la Commission européenne vient d'accepter d'étudier cette solution.
Ah, bien, bravo.
Voilà.
Oui, on peut vous applaudir, parce que donc, vous jouez un rôle important pour... Alors bon, ce bar des sciences, voilà, va toucher à sa fin, mais vous pouvez encore poser vos questions.
Simple question, vous venez de parler de scénarios. Où peut-on trouver de tels scénarios? Je rappelle simplement, par exemple, que dans le domaine de l'aménagement du territoire, la DATAR avait publié, à de nombreuses années, le schéma de l'impossible, le scénario de l'impossible, à peu près, pour montrer... quelles pouvaient être les conséquences de l'urbanisation en France. Bon, peut-être on pouvait le controverser, mais ça avait l'avantage d'exister et d'être diffusé auprès des décideurs. Alors pour en revenir à ce que vous disiez, madame, ces scénarios dont vous parliez, sont-ils accessibles, sont-ils diffusés?
Le rapport sur les scénarios, excusez-moi, Oui, exactement, ce que j'allais dire, merci Michel. Le rapport sur les scénarios du GIEC est disponible sur Internet.
En anglais, même en français.
Donc sur le site du GIEC, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC,
C'est IPCC.ch, hein. C'est attention parce qu'ils sont en Suisse. Voilà.
Il y a les différents rapports du GIEC, dont celui-là.
Oui. Je rappelle que le scénario de la Tatar s'appelait l'inacceptable. L'inacceptable. Le scénario de l'inacceptable, et c'est celui qui s'est réalisé. Un peu de choses près. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses, effectivement. Et les scénarios, c'est en fait les militaires après la guerre qui ont commencé sur les idées de.
Même après la guerre, hein.
Mais ça s'appelait scénario à l'époque, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et en tout cas, nous avons vu. Depuis le rapport Cheney et disons ce qui nous vient des États-Unis en termes de prospective, des scénarios qui étaient bigrement orientés. C'est-à-dire qu'ils utilisent le travail de prospective à des fins de promouvoir dans le monde entier une idée de l'avenir qui leur soit favorable.
Oui,
c'est ce qui est assez nouveau.
Vous avez vu, par exemple, vos travaux en prospective récupérés?
Non, parce qu'ils n'étaient pas vraiment récupérables. Si vous voulez, nous, on s'est permis un luxe rare pour des fonctionnaires qui est de faire paraître le livre en librairie avant que le ministre et son cabinet l'aient lu. Et M. Curien, qui est très beau joueur, à l'époque, a dit « Je suis comme le ministre de la Culture, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, mais je suis content que ça existe. » Donc, on avait travaillé en dehors de toute idée de jeu d'intérêt. Hein. Mais effectivement, si on veut faire des scénarios, il faut regarder les données physiques, il faut regarder le jeu des acteurs. Et les acteurs sont nombreux. Et effectivement, il n'y a pas que les États. Je pense que ce qui a été dit sur ce que fait l'Union européenne est important, mais ce ne sont pas les seuls acteurs qui sont dans le coup. Donc l'élaboration de scénarios, là, est un travail, justement, c'est pour ça qu'on fait ce petit groupe dont je parlais tout à l'heure.
Alors, vous redites la date et vous redonnez rendez-vous.
Le 7 novembre à 19h à l'école des mines, Saint-Vendôme.
Pour proposer des idées.
Voilà.
Pour se sortir de cette situation.
Alors on va commencer à travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Qu'est-ce que les gens qui seront présents là peuvent faire? Voilà.
Alors, Xavier Ferrand, vous allez nous accompagner parce que là nous allons tout doucement aller vers la fin. Est-ce qu'il y a encore une question qui ne s'est pas posée, qui aurait voulu se poser quand même? Parce que moi, il y avait une question quand même. Les calottes glaciaires, elles fondent vraiment? Le Gulf Stream, s'il disparaît, est-ce que c'est grave? Mais répondre simplement.
Donc, les calottes glaciaires vont fondre, en tout cas le Groenland va fondre. La question qui se pose, c'est pas trop de savoir si ça va fondre ou pas, mais c'est quand. Parce que si ça fond en 5000 ans, bon, ça fait quelques dizaines de centimètres par an, c'est pas très grave. Si ça fond en 500 ans, ben, ça devient inquiétant, puisque ça fait un mètre par siècle. Je voulais dire, avec par siècle, ça commence à poser de sérieux problèmes économiques sur toutes les régions côtières. Si c'est 10 cm par siècle, c'est ce qu'on a connu au XXe siècle, et bon, on ne s'en est pas trop ému, on va dire. Donc le problème, c'est pas trop de savoir si ça va fondre ou pas, c'est de savoir si ça va fondre vite. Et ça, malheureusement, on n'est pas encore vraiment en mesure de le dire. Oui, alors. Pour le Groenland, on pense qu'effectivement le bilan est négatif, tant que lui, le Groenland est en train de fondre actuellement. Pour l'Antarctique, les vues sont un peu plus partagées, parce que l'effet premier du réchauffement climatique, c'est d'augmenter la neige à la surface. En tout cas, la hauteur de l'Antarctique augmente, alors ça peut fondre un peu sur les bords, mais la hauteur augmente. Ce qu'on peut dire, donc ça c'est pour aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir pour le problème des calottes de glace, c'est que ça prend du temps à se mettre en marche. C'est une grosse machine. Les glaciers donc coulent, donc la calotte coule du centre d'un des bords, et ça va mettre des milliers d'années avant que la neige qu'on a accumulée en excès à la surface de pouvoir fondre sur les bords. Le bilan net, au final,
c'est que quand il fait plus chaud, ça fond. Ça, je crois que c'est pas une surprise. Mais donc on peut faire des projections à 5000 ans ou 10000 ans et dire au niveau de la mer sera 10 mètres plus haut, 15 mètres plus haut. C'est pas complètement irréaliste, c'est dans les ordres de grandeur. Mais je dirais ce qui intéresse plus les économistes, c'est de savoir si c'est plutôt dans 10 000 ans ou plutôt dans quelques siècles. Et ça, malheureusement. Ou dans 20 ans. Dans 20 ans, il n'y a pas trop de danger. Mais dans quelques siècles, c'est quelque chose qui n'est pas complètement exclu, on va dire. On s'aperçoit que la dynamique, justement, des calottes est beaucoup plus rapide qu'on imaginait encore il y a quelques années. Et le Gulf Stream.
Alors, s'il disparaît le Gulf Stream, est-ce que c'est grave pour le climat de nos régions?
Alors, s'il disparaît au 21e siècle, on va dire, ça, c'est avant tout parce qu'il fait plus chaud. Donc, c'est pas sa disparition qui va créer un coup de froid. Comme c'est popularisé bien souvent, c'est-à-dire. Il s'arrête parce qu'il fait plus chaud à la surface. Donc éventuellement, si le Gulf Stream se ralentit ou disparaît, enfin Gulf Stream entre guillemets, parce que c'est peut-être un raccourci un peu trop rapide d'un point de vue scientifique, bon, si cette circulation océanique à grande échelle ralentit ou disparaît, ce qui est non seulement envisageable mais envisagé très sérieusement, ça aura plutôt pour effet de modérer un peu le réchauffement aux hautes latitudes de l'Atlantique Nord. Donc on pourrait dire, ouais, c'est une bonne nouvelle finalement. Le problème, c'est que ça a aussi des effets sur la circulation atmosphérique, donc ça va avoir des effets sur, par exemple, la distribution des coups de chaud, des coups de froid, des précipitations, etc. Et tout ça, ça devient assez compliqué, en fait, à prévoir. Alors, par exemple, sur les prédictions faites par les deux modèles français, donc le modèle de l'UPSM et le modèle de Météo France, tous les modèles prévoient des réchauffements de quelques degrés à l'échéance du XXIe siècle. La principale différence en ce qui concerne l'Europe, c'est justement cet arrêt du Gulf Stream qui se fait de façon différente dans le modèle du UPSM et dans le modèle de Météo France. Et donc là, les principales différences, donc, ce qui va faire un obstacle à la prédiction climatique, c'est comment va se faire cet arrêt du Gulf Stream et quelles vont être les conséquences, en particulier pour les précipitations sur le Rhône. Ça, c'est des questions. C'est quelque chose qui complique un peu le système, mais ça. Alors, est-ce que c'est grave ou pas, ça, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, ça complique les choses. Oui.
Bien, merci. Bon, ben, je crois qu'on va finir sur ça. On remercie Maïda, Ami Gaon, Olivier Godard et Didier Payard. Didier, et Xavier Ferrand, on l'applaudit parce que c'est une fois que ça a joué. Thank you.